Vive Voix avec Pascal Paradou du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
Vous écoutez RFI à Paris et Brazzaville, il est 7h, 8h à Kiev.
RFI Matin.
Bonjour Pierre Boudias.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
L'Ukraine se réveille dans sa cinquième année de guerre.
Le 24 février 2022, la Russie débuta un conflit devenu le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. 1460 jours de combat pour des soldats ukrainiens dont le moral ne tient plus qu'à un fil, vous l'entendrez. 4 ans de guerre qui ont aussi changé durablement le paysage ukrainien. Là où se dressaient des villes de plusieurs centaines de milliers d'habitants, ce sont désormais des ruines qui jalonnent la ligne de front. La reconstruction coûtera cher, plus de 500 milliards d'euros selon la Banque mondiale et les Nations unies. Calme précaire dans l'ouest du Mexique après une journée de violence des gangs. Les narcotrafiquants ont semé le chaos en représailles à l'élimination d'El Mancho, chef du cartel Jalisco Nueva Generación. Reportage à suivre dans un état qui fonctionne au ralenti ces dernières heures. Et puis l'état-major américain pas forcément convaincu par une intervention en Iran et le président de la refondation malgache reçu à Paris pour la première fois, c'est à retrouver dans ce journal.
Il y a 4 ans, jour pour jour, la Russie plongeait l'Ukraine dans la guerre.
C'était le 24 février 2022, en pleine nuit et seulement une minute après l'annonce par Vladimir Poutine du déclenchement d'une opération militaire. La première frappe russe s'abattait sur Kiev. Depuis, le conflit a fait des centaines de milliers de morts et ne semble pas prêt de s'arrêter tant les négociations de paix patinent. Un supplice pour les quelques millions de soldats ukrainiens mobilisés et qui résistent depuis 1460 jours aux assauts des forces russes. Moscou qui continue malgré tout de grignoter petit à petit le territoire de Kiev, notamment dans l'oblast de Zaporijja, au sud-est du pays. Notre correspondant Théo Renaudon s'y est rendu à la rencontre de militaires ukrainiens de plus en plus démoralisés.
Andrei est chauffeur sur le front. Il amène les combattants ukrainiens sur les positions les plus difficiles. Lui parle d'une déprime généralisée.
La situation est très dure en ce moment. C'est très difficile pour les militaires. Ils avancent, vous comprenez? Les mauvaises personnes avancent. C'est très dur. Nous avons des besoins, des véhicules, des hommes, des besoins militaires. Nous avons besoin de médicaments. Nous avons besoin surtout de plus de gens, des soldats, des hommes et de munitions, de matériel de combat.
Rien, ils ne vont rien vous faire.
Dima combat dans la région. Il confirme l'épuisement de ses camarades et demande des renforts venus d'Europe.
On aimerait vraiment que vous envoyiez des troupes ici, parce que ce n'est pas illimité. Les Russes reçoivent de l'aide de la Corée, de la Chine, d'Afrique. Ils reçoivent pas mal de gens différents. Mais malheureusement, l'Union européenne a peur de la Fédération de Russie. Les gars, n'ayez pas peur. Ce sont des putains de salauds. Ils ne peuvent rien faire ici. Genre, ils ne peuvent pas vous vaincre. Alors comment pouviez-vous avoir peur? Il veut juste que vous soyez plus entreprenant. Disons, pour nous envoyer des troupes. N'ayez pas peur. Ils ne vous feront rien, putain.
Dima craint qu'avec le temps, les aides européennes s'amenuisent, ce qui plombe son moral. Théo Renaudon, Zaporijja, RFI.
L'Union européenne, justement, elle entend illustrer son soutien à l'aube de cette cinquième année de conflit. En témoigne la présence à Kiev ce mardi de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui affirme à sa descente d'avion que l'Europe ne cédera pas tant que la paix ne sera pas rétablie dans le pays. Mais dans le même temps, le front uni des 27 en faveur de Kiev semble s'étioler. La Hongrie a bloqué hier l'adoption d'un 20e paquet de sanctions contre la Russie. Budapest critique le refus ukrainien de laisser le pétrole russe transiter via son territoire. Critique reprise par la Slovaquie qui annonce de son côté cesser de fournir de l'électricité d'urgence à l'Ukraine. Une aide européenne pourtant vitale dans un pays défiguré par 4 ans de frappe russe, infrastructures énergétiques dévastées, villes et villages en ruine. Le coût du conflit se chiffre aussi en milliards d'euros pour Kiev, à 580 milliards sur 10 ans même. C'est en tout cas la somme chiffrée par la Banque mondiale et les Nations unies pour la reconstruction du pays, soit 3 fois le PIB ukrainien en 2025. Un effort colossal qui devra cependant attendre, autant la reconstruction reste un vœu pieux dans un pays sans cesse pilonné. Nathanaël Vitran.
Pas une journée en Ukraine ne passe sans de nouvelles frappes russes. Dans ces conditions, il est trop tôt pour parler de reconstruction, estime le professeur Mathias Thiemann, qui enseigne au Centre d'études européennes de Sciences Po.
Plus les Russes attaquent dans tout le pays, plus ça devient la réparation et moins la reconstruction.
Mais pour envisager l'avenir, permettre le retour des exilés, il faudra bien s'attaquer aux priorités vitales de l'Ukraine.
L'électricité, le logement et les transports pour que la population puisse retourner.
Désormais, les investissements publics multilatéraux financés par la Banque européenne de développement ou la Banque mondiale ont pris le relais du privé et se concentrent sur ces infrastructures. Ignace Hertley est un entrepreneur français. Il investit depuis longtemps dans le bâtiment en Ukraine. Il voit une exception.
Le marché privé, on a eu quelques chantiers de redéploiement industriel. Certains industriels qui voulaient se redéployer dans l'ouest du pays, qui étaient à l'est.
Pour s'éloigner du front ?
Oui, pour s'éloigner du front, ouais. Mais c'est des chantiers ponctuels.
Mathias Timan fait le même constat.
Ça sera un problème pour l'après-guerre. Beaucoup des fonds qui sont investis dans l'Ukraine pour créer cette nouvelle économie, ils se mettent beaucoup à l'œuvre dans l'Ouest. En fait, l'Union européenne elle pousse vraiment pour les investissements dans l'Est de l'Ukraine et les banques de développement n'ont pas trop envie d'y investir parce que c'est très risqué.
Ce déséquilibre Est-Ouest, un défi de plus sur le long chemin de la paix et de la reconstruction.
Nathanaël Vitran et ses 4 ans de guerre, ses conséquences géopolitiques, économiques, mais aussi les perspectives de paix. On y revient à 8h10, heure de Paris, édition spéciale jusqu'à 9h sur RFI. Mobilisation également de la rédaction web sur RFI.fr. Analyse, décryptage, dernières infos, c'est à retrouver sur notre site.
Station-service incendiée, commerce attaqué, barrage érigé, le Mexique au lendemain d'un déchaînement de violence des gangs.
Série d'attaques coordonnées dans l'ouest du pays après l'élimination par l'armée d'El Mancho, puissant dirigeant du cartel Jalisco Nueva Generación. Au moins 46 narcotrafiquants et 25 membres de la garde nationale ont été tués. La présidente déploie 10 000 soldats dans les régions touchées pour rétablir l'ordre. Notre correspondante Gwendolina Duval est arrivée il y a quelques heures à l'aéroport de Guadalajara dans l'état du Jalisco. Dans ce fief du cartel, les activités sont complètement à l'arrêt et les grands événements sont annulés. Reportage.
À l'aéroport de Guadalajara, c'est encore un peu le chaos, même si une partie des vols ont repris dans l'après-midi. Il y en a toujours beaucoup d'annulés ou de retardés. Julia, une touriste américaine, espère rentrer en Californie après une nuit passée ici.
Beaucoup de gens ont dormi à l'aéroport. Il y avait beaucoup de monde allongé sur le sol partout à cause des vols annulés.
Talia est mexicaine et vient du Sinaloa pour le travail. Elle a été surprise par l'alerte de sécurité.
Il n'y avait plus rien d'ouvert. L'hôtel a pris ses mesures de sécurité et s'est confiné. Notre vol a été reporté aujourd'hui. Alors oui, il est en retard, mais au moins on peut partir. Nous sommes soulagés. On retrouve un peu notre calme, mais on prend nos précautions.
Dans la capitale du Jalisco, la nuit est sur le point de tomber. La plupart des habitants continuent de limiter leurs déplacements alors que les transports publics reprennent du service progressivement. Les établissements scolaires resteront fermés ce mardi. À l'université de Guadalajara, les cours auront lieu en ligne. Plus de 2000 soldats supplémentaires sont arrivés hier dans la région. Selon les autorités, il n'y a plus de blocage sur les routes fédérales, mais certains témoignages font état d'incidents sur la route entre Guadalajara et la cité balnéaire de Puerto Vallarta. Au Jalisco, Gwendolina Duval, RFI.
Guadalajara qui doit accueillir dans quelques mois des rencontres de la Coupe du Monde de football 2026. Le Mexique co-organisateur de la compétition.
L'Iran répondra férocement à toute attaque américaine sur son sol.
Énième mise en garde de la République islamique, 2 jours avant une nouvelle session de pourparlers à Genève. L'émissaire spécial américain Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, confirment leur participation. En cas d'échec de ces pourparlers sur le nucléaire iranien, la Maison-Blanche agite toujours le spectre d'une intervention militaire, une option qui n'emballe pas forcément le chef d'état-major américain, Vincent Souriau. Selon le Washington Post, Dan Kane a mis en garde Donald Trump face au risque d'une telle entreprise.
Il y a 2 sujets de préoccupation pour l'état-major américain. 1, les stocks de munitions défensives, celles qui équipent les systèmes de défense anti-aériens comme les batteries Patriot ou bien les modèles tirés par les navires de la marine américaine. Le volume de ces munitions a fondu en raison du soutien à l'Ukraine et à l'armée israélienne. Or, les États-Unis en ont besoin à tout prix et en grand nombre si l'Iran réplique après des frappes américaines. 2, le soutien des alliés de la région. Si la Maison-Blanche décide, par exemple, d'éliminer le programme balistique de l'Iran, il va falloir que les États-Unis frappent des centaines de cibles sur tout le territoire iranien. Ce type d'opération peut durer des semaines et l'armée américaine compte sur ses bases de repli en Arabie Saoudite, au Qatar ou aux Émirats. Problème, d'après le Washington Post, les pays arabes qui ne veulent pas subir les représailles iraniennes ont informé Washington qu'il n'autoriserait pas une offensive contre l'Iran à partir de leur territoire. Autrement dit, pas d'autorisation de survol aérien pour les avions de chasse américains, ce qui pourrait largement compliquer la tâche des États-Unis en cas de conflit. Vincent Souriau, Washington RFI.
Et sur son réseau social, Donald Trump dément lui tout désaccord avec son chef d'état-major dans ce dossier.
RFI 7h10 à Paris, la capitale française qui accueille le président malgache de la refondation.
Mickaël Ranjarinin, attendu ce matin à l'Elysée pour une visite de travail aux côtés d'Emmanuel Macron. Premier déplacement en France pour le dirigeant malgache, 6 jours après une visite au Kremlin pour rencontrer Vladimir Poutine. Aurélie Couman, Antananarive assume une diplomatie de l'équilibre.
Ce déjeuner de travail prévu à 14h marque la première rencontre physique entre les deux chefs d'État. Selon l'Élysée, les discussions porteront sur l'accompagnement de la transition malgache et l'aide humanitaire après le passage sur l'île de cyclones dévastateurs. Mais ce déplacement s'inscrit surtout dans une séquence diplomatique chargée. Jeudi dernier, à Moscou, le colonel Ranjarinin officialisait une nouvelle ère de coopération avec la Russie, axée sur la défense et l'énergie. Avant de s'envoler pour Paris, le chef de l'État malgache a justifié cette stratégie. Madagascar est selon lui un pays hospitalier qui cherche des bénéfices concrets pour son peuple, sans pratiquer de discrimination entre ses partenaires. À Antananarive, cette politique de diversification suscite des réserves. Onir Ader, secrétaire général du collectif des citoyens et des organisations citoyennes, regrette un manque de transparence sur les enjeux réels de ses voyages et demande une redevabilité au retour du chef de l'État. Ce tête-à-tête intervient dans un climat encore marqué par l'exfiltration de l'ex-président Hans Raswell, un épisode qui avait ravivé les tensions entre les deux capitales. Aurélie Couman, Antananarive, RFI.
Et puis, bout de Glimt à 90 minutes de l'exploit.
Le club, issu d'une ville de pêcheurs de 42 000 habitants, située au-delà du cercle polaire, affronte l'Inter Milan au barrage retour de la Ligue des Champions. À l'aller, les Norvégiens s'étaient imposés 3-1 sur leur pelouse face aux vice-champions d'Europe. Ils espèrent donc bien confirmer ce soir et rester le poil à gratter de cette compétition, Thomas de Saint-Léger.
C'est un nom que l'Europe du football apprend à prononcer. Bout de 50 000 habitants, un petit port et une spécialité, la pêche au gros, au tableau de chasse du club de la ville cette saison, l'Atlético de Madrid, Manchester City et donc l'Inter Milan piégé aussi la semaine dernière sur le terrain synthétique du quadruple champion de Norvège. Performance remarquable pour une première participation en Ligue des Champions. Coup d'éclat aussi en écho à un exploit fondateur, le 6-1 infligé à l'AS Rome fin 2021 dans le cadre plus confidentiel de la Ligue Europa Conférence. Depuis, les jaunes et noirs progressent encore. Ils sont arrivés jusqu'en demi-finale de la Ligue Europa l'an passé. Leur secret, un collectif rodé, essentiellement composé de joueurs du cru, des talents en pleine confiance. Jens Peter Haug, l'ailier, en est par exemple à 5 buts et une certaine capacité à emballer les matchs, surtout à domicile. Cette fois, loin des températures glaciales et de leur public bouillant, ils devront s'adapter à une toute autre configuration. Il leur faudra résister à la pression, à l'enjeu et aux assauts de la meilleure équipe d'Italie. Même avec 2 buts d'avance, c'est loin d'être fait.
Coup d'envoi de la rencontre à 20h, temps universel. On vous rappelle également que RFI sera en soirée spéciale demain pour suivre 2 autres barrages retour, Paris Saint-Germain-Monaco et Real Madrid-Benfica.
C'est noté, merci Pierre Boudias. À Paris, il est 7h13, prochain journal dans 20 minutes. Et d'ici là, on va aller en Russie, où il y a 4 ans, Vladimir Poutine ordonnait le lancement de l'opération militaire spéciale. On va parler ensuite de l'agriculture au cœur de ce conflit ukrainien, et ça depuis le début. Enfin, dans un peu plus de 5 minutes, notre invitée internationale Olga Kourovska, ukrainienne, co-autrice aussi d'un livre. Elle sera dans notre studio et racontera sa guerre.
RFI Matin.
La Russie, où ce 24 février est un jour comme un autre, il y a 4 ans pourtant, était lancé ce que le Kremlin appelle toujours opération spéciale. À Moscou, on est en ligne avec Anissa El-Jabri. Bonjour Anissa.
Bonjour.
Alors cette guerre, Anissa, les autorités assuraient au départ qu'elle ne changerait pas le quotidien des Russes. Aujourd'hui pourtant, elle a pris ses marques dans le pays, mais de manière contrastée, hein.
Oui, c'est vrai, cette guerre en Russie, elle n'est pas forcément visible et marquante de la même manière pour tout le monde. Si vous êtes à Moscou, par exemple, eh bien vous êtes dans une ville où, de prime abord, rien ne vous laisse imaginer qu'on est dans la capitale d'un pays qui a envoyé ses soldats dans le conflit le plus violent sur le continent européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Au bout de 4 ans, eh bien on a toujours des restaurants, des boîtes de nuit qui débordent, des décorations qui clignotent, des festivals très nombreux, organisés par une mairie très active et dans les boutiques, toujours, des produits de marque qui ont quitter la Russie. Ces produits sont là via ce qu'on appelle ici les importations parallèles, soit la commercialisation sans l'autorisation de l'entreprise. En fait, les seuls vrais signes visibles du conflit dans l'espace, eh bien, ce sont souvent les affiches de recrutement pour se battre en Ukraine sur les panneaux d'arrêt de bus, parfois en affichette dans les transports. Récemment, on a plus souvent vu des incitations pour la spécialisation en drone.
Et alors, Anissa, à l'autre extrémité du spectre, plus vous vous rapprochez en fait des zones frontalières de l'Ukraine, plus le conflit a pris ses quartiers.
C'est vrai, dans la région de Koursk, par exemple, on a toujours des zones entières qui ne sont pas déminées, des habitants qui n'ont pas retrouvé leur maison et encore moins leur vie d'avant. Dans celle de Belgorod, depuis janvier, les attaques de drones de l'Ukraine ont fini par avoir des conséquences sévères dans cet hiver froid, moins 20 degrés, parfois plus ces dernières semaines, et des chutes de neige abondantes. Le gouverneur de la région annonçait il y a une dizaine de jours qu'il n'y aurait pas d'eau chaude ni froide courante dans toute une partie de la région d'ici au printemps. Des zones entières n'ont plus d'électricité et ça ne fait pas les gros titres en Russie.
Et le fait qui touche quand même tout le territoire désormais, Anissa, ce sont les coupures d'Internet, la décision de l'État de mettre fin aux communications via WhatsApp et Telegram.
Oui, à chaque fois, ce sont des raisons différentes qui sont présentées. Par exemple, un moyen de lutter contre un fléau en Russie, les escrocs par téléphone, ou bien la nécessité de la lutte contre les attaques de drones venues d'Ukraine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement aussi cherche à faire migrer toute la population vers sa messagerie, Max. Max est totalement transparente pour les services de sécurité. Au total, on avance ici dans ce que le gouvernement appelle la souveraineté technologique, mais en réalité, la population saisit bien que plus ça va, plus elle se retrouve dans une bulle, isolée du monde, de plus en plus uniquement exposée aux messages officiels.
Anissa El Jabri, envoyée spéciale permanente d'RFI à Moscou. La guerre entre la Russie et l'Ukraine qui a de lourdes conséquences sur l'économie mondiale. Bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Adriane.
Et on en parle ce matin dans Aujourd'hui l'économie. On s'intéresse plus précisément à l'un des fronts de ce conflit, le front agricole. Stéphane, on parle là d'une guerre hybride qui se déroule aux portes de l'Europe où blé, maïs, engrais et huile de tournesol sont aussi devenus des armes.
Exactement. Et pour comprendre, il faut revenir à un constat simple. En avant février 2022, l'Ukraine et la Russie nourrissaient une large partie de la planète. À eux deux, ils représentaient un tiers du commerce mondial de blé, plus de 20% du maïs exporté et surtout, Andréane, près de 75% des exportations mondiales d'huile de tournesol. Autrement dit, depuis 4 ans maintenant, c'est toute la planète qui mange moins bien, plus cher ou plus difficilement.
Et c'est pour ça que dès le début de la guerre, les frappes russes ont ciblé, Stéphane, les ports ukrainiens, les silos, tout comme les infrastructures ferroviaires et fluviales.
Oui, cela évidemment a affecté la production ukrainienne, hein, car l'objectif russe, c'est d'affaiblir l'économie du pays, de réduire ses revenus d'exportation et de fragiliser son effort de guerre. Et sur les marchés mondiaux, la réaction a été brutale. Les prix du blé ont flambé de 50%. Ceux du maïs et des huiles végétales se sont envolés. Et face à cette situation, Moscou a transformé le blé en une arme diplomatique en l'utilisant comme levier d'influence. Moscou qui a maintenu des flux élevés vers ses partenaires stratégiques comme l'Afrique du Nord et subsaharienne, le Moyen-Orient et l'Asie centrale. C'est ce qu'on appelle tout simplement la diplomatie céréalière russe. Le blé devient ainsi une monnaie d'influence.
Et donc, on assiste, ou du moins on a assisté à une recomposition de la géopolitique alimentaire.
Exactement. Hein, les chaînes d'approvisionnement se sont régionalisées. Les politiques de stockage stratégique ont été réajustées. Et pour le coup, elles se sont généralisées. Une expression a de plus en plus été utilisée. La souveraineté alimentaire, c'est précisément cet axe qui a structuré les stratégies nationales, notamment européennes. Car l'Europe s'est retrouvée face à un dilemme majeur. Soutenir l'Ukraine, oui, tout en protégeant son propre modèle agricole. Mais 4 ans plus tard, malgré une relative normalisation des marchés, les effets qu'on vient d'évoquer persistent.
Et le modèle agricole ukrainien se recompose.
Oui, et la guerre accélère justement cette recomposition. Les grands groupes agroalimentaires et industriels y voient là une opportunité d'investissement à moindre coût, avec une capacité d'absorber les chocs, car il faut avoir un regard de long terme, Andréane. Beaucoup pensent à la reconstruction du secteur qui va nécessiter énormément d'argent dans la dépollution des sols, la remise en état des réseaux ou encore la reconstitution des surfaces agricoles, tout comme des infrastructures d'ailleurs, puisque l'agriculture ukrainienne reste et restera un enjeu géostratégique majeur, tant pour l'Europe que pour l'équilibre alimentaire mondial.
Stéphane Geneste, merci. Pour aller plus loin sur ce sujet, vous pouvez retrouver le décryptage de Sébastien Abyss, directeur du club Déméter, chercheur à l'IRIS, auteur du livre Russie-Ukraine, une guerre hybride. C'est à retrouver donc sur RFI.fr à la rubrique Aujourd'hui l'économie. 7h20 à Paris, c'est notre grand invité international en ce 24 février 2026 dans notre studio face à Clotilde Dumais, Olga Kourovska, ukrainienne, professeure de français, co-autrice du livre Le journal d'Olga et Sacha, c'est publié chez Actes Sud.
Bonjour Olga Kourovska.
Bonjour.
Votre sœur Sacha est toujours en Ukraine, à Kiev, avec votre famille. Vous vivez à Paris depuis une dizaine d'années. Vous prenez donc des nouvelles l'une de l'autre à distance depuis le début de cette invasion russe en Ukraine. Comment est-ce que vous allez, vous-même d'abord, 4 ans après le début de cette guerre, et comment va votre famille sur place ?
Alors on s'est habitué, on répond toujours on va bien, mais on sait qu'à l'intérieur on va pas trop bien, on est obligé de gérer ces états, et voilà, on s'habitue, on va bien. Mais attention, on va bien, c'est pas toujours bien.
Quand on voit effectivement les conditions sur place cet hiver en Ukraine, les coupures d'électricité évidemment toujours quotidiennes, plus d'eau chaude et des températures qui ont été particulièrement basses, c'est le pire hiver là qu'ont connu les Ukrainiens depuis les débuts de l'invasion.
Je pense oui. Et la situation est vraiment très compliquée. Je sais que par exemple à Kiev, il y a pas d'eau chaude, donc c'est vraiment très compliqué. Il y a certains quartiers où les tuyaux de chauffage ont explosé. Donc ça gèle chez les gens. Il y a des amis qui ont moins un dans leur appartement. Donc ils ont dû déménager à la campagne chez la famille. Donc la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile.
Vous voyez aussi les forces russes avancer, certes lentement, mais avancer malgré tout. Les négociations, elles, en revanche, plutôt patinées pour le moment, les négociations pour la paix. Votre sœur, Sacha, a écrit récemment dans l'une de ses correspondances, le 25 décembre dernier, publiée donc par le journal Le Monde, je la cite, « Je ressens à la fois un désir immense de voir cette guerre se terminer et l'impossibilité totale d'accepter l'ultimatum russe. » Vous, Olga Kourovska, est-ce que vous êtes tiraillé de la même façon, c'est-à-dire à la fois cette envie d'une paix et en même temps de ne pas accepter une paix à n'importe quel prix.
C'est exactement j'ai exactement la même opinion, le même ressenti, si vous voulez. On peut pas lâcher les terres comme ça. On ne négocie pas avec le violeur, qui est la Russie, qui est Poutine. On ne peut pas. Il y a combien de morts, combien de milliers de morts, peut-être 1 million de morts. Enfin, je ne connais pas du tout les chiffres, mais ils me paraissent immenses.
15 000 civils tués d'après l'ONU, mais ce sont
exactement,
des chiffres.
Exactement, et c'est que les civils. Donc, comment est-ce qu'on peut accepter de donner, mais pour quelles raisons, en fait ? L'Ukraine, c'est un pays entier, souverain. On ne peut pas juste donner nos terres à quelqu'un qui a décidé que l'Ukraine, ce n'était pas un pays, ce n'était pas un peuple, et juste comme ça, lâcher le morceau à l'agresseur. Ce n'est pas possible.
Est-ce qu'il y a un moment, peut-être un peu précis, où vous avez compris que cette guerre allait durer potentiellement plus longtemps que ce que vous aviez imaginé au début ?
Je pense que c'était au tout début, peut-être après la première année de guerre, mais il y avait toujours des étapes où, voilà, tout le monde, le Trump est arrivé au pouvoir, on s'est dit, ouais, peut-être un petit espoir, mais après on a tout de suite vu que, en fait, non, pas du tout, la guerre n'allait pas se terminer, et là, bon, on a... Je pense que je ne représente pas tout le peuple ukrainien, mais moi, je n'ai plus aucun espoir, et je sais que, enfin, je me suis habituée à cette pensée que la guerre, elle allait durer, et c'est peut-être pour toute ma vie et la vie de mes enfants, peut-être.
Plus aucun espoir, dites-vous, vraiment, de la part même aussi de votre famille. Qu'est-ce qu'elle en pense?
Vous savez, je pense que là, ils sont au stade où ils vivent au jour le jour, puisque impossible de prévoir quelque chose, ni d'analyser, ni de... C'est imprévisible. Les attaques sont imprévisibles, on peut mourir là, du jour au lendemain, tué par une roquette russe ou un drone russe qui vole tous les jours dans le ciel ukrainien et qui vient. Je pense qu'ils essaient juste de survivre le jour actuel, surtout avec les conditions de froid et d'absence des conditions de vie normales basiques. Voilà, mais je sens qu'il y a plutôt très peu d'espoir. Il y a de l'espoir dans l'armée ukrainienne. Je pense que c'est la seule chose sur laquelle on doit se concentrer.
Même si, effectivement, elle perd beaucoup d'hommes, même s'il est difficile de recruter aujourd'hui, côté ukrainien aussi.
Je pense que oui. Je pense que c'est vraiment l'armée qui fait la barrière entre le monde démocratique européen et cette noirceur qui arrive de l'Est de la Russie.
Vous me disiez il y a quelques minutes en antenne, Olga Kourovska, que vous comptiez effectivement essentiellement sur cette armée ukrainienne et moins finalement sur les partenaires occidentaux, on va dire, de l'Ukraine. Vous qui êtes attachée à la France, qui est attachée à la culture française, comment est-ce que vous jugez aujourd'hui effectivement l'action du gouvernement français et peut-être aussi des citoyens français qui sont beaucoup mobilisés? On en parlait beaucoup au début de l'invasion. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui?
Alors pour les citoyens, je trouve que, j'espère rien, mais je pense que c'est tout à fait normal pour les gens de se fatiguer, de ne plus avoir envie d'entendre des choses, de parler de la guerre ou autre. Après, je suis consciente que les partenaires aident beaucoup et bien évidemment on est très reconnaissant, mais ça fait 4 ans et cette lenteur, on a l'impression, justement quand on regarde la carte, on a l'impression que les Russes n'avancent pas, mais tous les jours il y a des morts. Donc d'un côté on a l'impression que ça n'avance pas, de l'autre côté on a l'impression que ça, c'est quand même, les gens sont tués à une vitesse que, c'est compliqué à dire. En fait, on sait que l'Europe nous aide, que l'Occident nous aide, mais on a cette sensation de lenteur et d'attente qui
d'immobilisme pour le moment.
Oui, tout à fait.
Dans vos échanges avec votre sœur, la première année, donc elle raconte dès le début, presque quotidiennement, le bruit des sirènes, la vie de tous les jours dans ce contexte de guerre qui s'installe. Et vous, vous partagez beaucoup votre culpabilité de rester en France, d'être loin de votre pays. 4 ans plus tard, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que vous avez toujours ce même sentiment? Pourquoi finalement ne pas aller en Ukraine? Pourquoi est-ce que votre famille aussi décide de rester sur place?
Je pense que ma famille est très attachée tout simplement à l'endroit où ils habitent, c'est leur pays, et c'est mon pays aussi. C'est juste que à un moment donné, il y a 10 ans, j'ai pris la décision de partir, et c'était ma décision. Et puis c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu ce mal de pays où j'ai vraiment voulu, au début de la guerre, je voulais repartir, mais
j'hésitais. Vous y êtes retournée à Kiev quelques
fois? Je suis retournée plusieurs fois, et là c'est vrai que j'ai ma situation familiale a changé, j'ai eu un bébé, donc maintenant je n'envisage pas de revenir en Ukraine parce que c'est dangereux, mais en même temps Sacha est là-bas, elle a un petit bébé aussi, je comprends. Entre que je connais un tout petit peu la vie là-bas maintenant avec un petit bébé, mais les deux situations sont compréhensibles. Après j'essaie de ne plus juger les décisions de ma famille. Voilà, donc il reste là-bas parce que...
Mais c'est difficile pour vous à accepter, effectivement, vous ne l'avez pas toujours compris, ce choix de rester.
C'était très très difficile à accepter, surtout. Maintenant, je pense comprendre, j'ai arrêté de proposer, parce que je comprends que c'est dur, la décision de rester, c'est très très dur déjà, donc j'essaie de ne pas rajouter des couches.
Et vous, même à distance, vous faites part aussi de votre sentiment patriotique dès le début de vos échanges, est-ce qu'il est toujours aussi fort aujourd'hui? Est-ce que vous soutenez toujours autant votre président, Volodymyr Zelensky?
Absolument, oui. Je trouve que c'est l'essentiel pendant une telle situation de guerre, de soutenir les siens, le président. Même, on peut ne pas être d'accord, bien évidemment, mais après, je soutiens toujours aussi fort mon pays et mon président. Oui.
Merci beaucoup, Olga Kourovska, d'avoir été avec nous sur RFI ce matin.
Olga Kourovska, co-autrice du livre Le journal d'Olga et Sacha, s'est publié chez Actes Sud. Elle répondait à Clotilde Dumay sur RFI. À suivre, l'information africaine.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Après 4 ans de guerre en Ukraine, pourquoi les dernières négociations autour du plan de paix ont échoué? Quel est leur rapport de force sur le terrain? À quoi ressemble le quotidien de la population ukrainienne et russe? Quelles sont les conséquences économiques du conflit? Ce mardi, nous répondons à vos questions. 33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à